Bien ici, bien chez vous, une émission proposée par Bien ici sur Radio Imo.
Eh bien voilà, bonjour et bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. On est ravis d'être ici dans la capitale historique de notre beau pays. Merci, nous sommes à Paris. C'est notre 5e édition, vous êtes bien ici, donc vous êtes bien chez vous. Et c'est une émission qui a pour but de vous donner toutes les clés de lisibilité autour du logement, des prix de l'immobilier. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est pas une mince affaire et on a souhaité justement se rencontrer ici dans notre capitale pour parler des prix de l'immobilier. Comment se porte le marché à Paris, à l'extérieur comme à l'intérieur? Comment sont les tendances à la vente comme à la location? Quelles transformations sont en cours? Quels sont les enjeux immobiliers dans Paris? Qui fait face, comme le reste, à des territoires qui sont en tension? C'est une crise qui est multifactorielle, qui nous touche tous. Comment on peut en sortir? Et c'est ce qu'on va tâcher aujourd'hui de décrypter avec nos experts. Mais tout d'abord, on va vous donner le sommaire de l'émission, mesdames et messieurs. On va avoir un grand débat avec trois invités. Ils sont avec nous autour du plateau pour discuter finalement de tous les sujets. Et je vous rappelle que la vitalité d'une bonne démocratie, c'est de débattre, voilà, de façon intelligente, avec des avis qui sont tout à fait tranchés. J'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau quelqu'un qui est un grand monsieur de l'immobilier. Il est le président de la Fédération nationale de l'immobilier pour Paris-Île-de-France. C'est Olivier Principal. Comment ça va ?
Mais ça va super bien, Sylvain. Bonjour, bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous.
C'est un vrai plaisir que vous soyez avec nous. C'est très important que vous soyez parce que vous représentez bec et ongle la corporation, ce beau métier, les trois métiers, l'enchaîne de la chaîne de valeur. Et Dieu sait qu'elle a été sévèrement malmenée par les politiques publiques ces derniers temps. On va le dire, parce qu'il faut le dire. Et vous réalisez avec l'ensemble de vos confrères les rêves des Français, c'est-à-dire d'accéder à la propriété et de donner et de trouver une dignité dans le logement. C'est très important aussi de l'ajouter. Merci d'être avec nous. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la référence du luxe et du prestige sur le plateau. Il est le président du groupe Juno. Merci Sébastien Cuperfis d'être avec nous.
Merci Sylvain de cette invitation.
C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Alors je voulais demander, il y a toujours la statue là du livre de Marcel Aimé.
Toujours, le passe-muraille.
Le passe-muraille, vous rappelez le passe-muraille, c'était extraordinaire. Moi j'aime beaucoup ce quartier. Quelle chance. Il faudrait qu'on fasse un reportage chez vous, comme ça je viens vous voir au siège.
Quand vous voulez.
Et on y iront comme ça déambuler bucoliquement, comme ça dans les rues de la butte Montmartre. Merci en tout cas Sébastien d'être avec nous. Thomas Barbier, bonjour.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien.
Directeur régional pour la région Île-de-France, c'est bien ici. Merci d'être avec nous. C'est avec vous d'ailleurs qu'on va partager l'ensemble de ces informations, notamment sur l'immobilier. Mais si vous le voulez bien, les amis, vous toutes et vous tous qui nous écoutez, je voudrais que nous rappeler comme ça quelques mots sympathiques sur notre bonne vieille ville. On a un peu bûché sur la notice en disant qu'on allait un peu parler de notre capitale. Vous êtes bienvenue bien sûr à Paris, les monuments, la région, une ville monde qui sort à peine de l'organisation de l'événement planétaire. Ça a été les Jeux Olympiques de 2024, un événement qui aura mis en lumière, il faut le dire, ce que tout le monde connaissait déjà, une ville de culture et de grandeur. Paris, c'est aussi une histoire riche qui a commencé sur la rive gauche, sur l'île de la Cité, puisque Paris finalement était bordé par le fleuve, par la Seine, entre la Cité et le Panthéon, une histoire qui se poursuit et qui va s'intensifier au fil des siècles. Paris est une ville d'abord qui se raconte, qui se rêve et qui se vit. Paris, c'est la visite bien évidemment de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe, du Trocadéro, du pont Alexandre III, de la cathédrale Notre-Dame, du Sacré-Cœur de Montmartre. On a la chance d'avoir Sébastien qui le voit quasiment tous les jours. Comment ne pas mentionner bien sûr les incontournables comme par exemple le Louvre qui est bien plus qu'un musée, mais surtout un symbole d'architecture et de réussite culturelle. Ou encore tout à fait la gare de Lyon par exemple, qui est l'une des 9 gares qui relie Paris au reste de la France. C'est un vrai progrès puisque Paris est une ville non seulement riche en monuments célèbres, mais c'est aussi une capitale monde à part entière. Voilà, à part entière, c'est-à-dire que c'est son caractère, les arrondissements qui sont bien organisés, bien structurés, après cet formidable effort urbanistique qu'avait mené le baron Haussmann à son époque. Son patrimoine, sa culture, son histoire en font une des plus belles villes, sinon la plus belle ville du monde. Vous êtes d'accord, Paris est la plus belle ville du monde. C'est aussi un style architectural qui est connu et reconnu. C'est le style dont je vous parlais tout à l'heure, le style haussmannien. Juste un chiffre. En 17 ans, le baron Haussmann a abattu 30 000 immeubles. 17 ans. Construit les principales avenues et revu complètement cette architecture pour mettre du l'air, de la perspective et du vert dans Paris. C'est absolument remarquable. C'est une modernisation qui a fait écho dans le monde entier. Merci à Eugène Haussmann. Je rappelle que ces travaux d'Haussmann ont eu lieu entre 1853 et 1870. C'était l'empereur Napoléon III qui l'avait fait cette demande. Bien évidemment, vous connaissez ces larges avenues, hein, c'est très pratique, surtout quand on est en scooter, par exemple, rectiligne, créant un paysage architectural emblématique. On l'admire tous aujourd'hui. Paris, ce sont aussi les places, les grands axes, les lieux essentiels pour rallier et rassembler le peuple, la Bastille, la Concorde, la place Vendôme, la place de la République, reliés par des avenues, des boulevards ou des rues où on peut connecter entre eux les arrondissements. À Paris, chaque arrondissement, chaque quartier est un village qui est façonné par ces monuments. C'est extraordinaire. Finalement, quand on est dans Paris, dans chaque quartier, on peut trouver un morceau de son histoire, on peut avoir un narratif poétique, bucolique, au gré de la déambulation des résidentiels familiaux, des quartiers populaires. 20 arrondissements parisiens sont un exemple vivant de la diversité, de la mixité, du partage précieux dans notre pays. Cela fait partie de la culture, de l'expression de la ville, car l'art est ouvert à tous, et Paris est également et surtout une ville d'art. Entre Paris et une ville de sport, avec le PSG, les deux clubs de rugby parisiens, comme le Stade français ou le Racing, mais surtout en 2024, les Jeux Olympiques, formidable réussite. 100 ans après les Jeux de 1924, Paris et sa région ont accueilli à nouveau les Jeux Olympiques, et à cette occasion, de nouvelles infrastructures ont vu le jour, comme l'Adidas Arena de la Porte de la Chapelle, le centre aquatique, par exemple, de Saint-Denis, ou encore le village olympique, par exemple, entre la couture de Saint-Ouen et de Saint-Denis, avec, pour la première fois au monde, un permis à double entrée, puisque ce permis a été double détente pour créer des chambres pour les villages des athlètes et redevenir ensuite, par la réversibilité, des logements, des infrastructures sportives, avec le transport, la ligne 14, rebaptisée ligne olympique, qui doit être prolongée sur ses deux extrémités et qui va relier Orly au sud et le village olympique au nord, comme le nouvel aménagement de la Porte Maillot. Bref, Paris est une ville d'histoire, une ville qui allie tradition et modernité, car si on veut savoir où l'on va, encore faut-il savoir d'où l'on vient, comment se porte l'offre immobilière dans Paris, qui fait rêver tout le monde, qui est le rêve absolu, c'était le mien en 1988 quand j'ai débarqué à Paris, comment elle évolue. Pour en parler, je suis ravi d'ailleurs d'accueillir sur notre première rubrique nos amis que j'ai présentés ici sur le plateau. C'est parti pour l'émission.
Bien ici, bien chez vous, l'état du marché.
Mon cher Thomas, comment ça va ?
Très bien.
Voilà, alors vous avez une masse d'informations et de données à nous livrer grâce aux équipes data de Bien ici. En quelques mots, clairement, quelle est la tendance ?
Comme vous l'avez justement rappelé, Paris est une ville un petit peu spécifique. C'est une ville capitale, une ville monde. Et si on ajoute à cela ces plus de 2 millions d'habitants, ça en fait de loin la première ville de France, plus de deux fois la population de la deuxième ville qui, je crois, est Marseille, et on ne parle pas de football. Évidemment. Tout ça pour dire que Paris devient aussi pour nous en fait une sorte d'observatoire en fait d'identification des leviers, des tendances de l'évolution du marché immobilier. Alors ce qu'on observe depuis maintenant 3 ans, alors ça peut-être surprendre, mais c'est qu'on a globalement une offre en fait qui est à la baisse sur le marché de Paris. Mais cette baisse en fait s'explique par notamment la pénurie extrêmement forte qu'on a pu vivre et qu'on continue à vivre sur les biens locatifs. Il vient véritablement amputer ce volume d'offres. Concernant la transaction, pour le coup, on est plutôt sur un marché à la hausse qui a atteint d'ailleurs son pic record à l'été 2023.
Alors, est-ce que cette baisse, finalement, quand on prend, je regardais vos chiffres, elle est continue depuis les 3 dernières années?
Oui, globalement, oui, tout à fait.
Donc, ça veut dire qu'on est, indépendamment de la crise, c'est là où je voulais en venir, on est plutôt sur quelque chose qui est structurel sur le marché parisien, une vraie tendance.
C'est une vraie tendance en fait qui est marquée plus en avant sur Paris, effectivement, parce qu'on a évidemment eu des événements qui ont justifié effectivement et qui ont impacté l'ensemble de ce marché et qui par voie de conséquences en fait ont eu des répercussions également en fait sur la petite et la grande couronne, plus derrière sur les marchés locatifs. On en parlera, je pense, tout à l'heure. On a effectivement des éléments très importants.
Alors, le marché locatif, c'est un peu la dent creuse, hein, pour être très clair. C'est un état des lieux qui n'est pas forcément très réjouissant, puisqu'on est carrément sur un marché locatif brisé, voire même grippé. Quelle analyse on peut faire ?
Il y a un constat qui est assez simple, c'est que en 3 ans, l'offre
de biens à la location a diminué, a été amputé de plus de 60%. En gros, c'est deux tiers des annonces à la location qui ont été supprimées. Alors,
moins
au même moment,
60%.
Oui, c'est presque les deux tiers, en trois ans. Et au même moment, et c'est là où effectivement il y a quand même un gros souci, c'est que la demande, donc le besoin en fait, a été multiplié par 4. Donc on est véritablement depuis maintenant 3 ans, on a été les premiers sur Paris à l'observer, face à une situation de tension locative, on va dire, assez
en fait,
unique,
c'est deux
inédite.
Courbes complètement inversées, quoi. C'est double peine. Hein. C'est 60% de biens loués, 4 fois la demande, quoi.
C'est ça.
Mais ça doit être désespérant quand on fait la. On en reparlera tout à l'heure avec nos invités, parce que. Comment ils font pour se loger les gens, finalement ? Ils dorment dans leur voiture.
C'est effectivement aujourd'hui une course très compliquée. Nous, aujourd'hui, la vision que l'on a, c'est que. On peut, j'irais, donner, un panel de l'offre qui existe à travers des éléments de recherche extrêmement précis, notamment à travers la cartographie de bien ici, donc qui permet aux recherchants de plus se projeter dans sa recherche, donc d'identifier plus ce qui correspond à ses besoins. Maintenant, on ne peut pas inventer l'offre. On est véritablement qu'un relais entre l'offre et la demande. Mais on le voit bien, aujourd'hui, 90% des demandes qui sont faites sur Paris concernent de la location, alors que ce stock de location ne représente que 25% de l'ensemble des annonces.
Et c'est quoi la typologie des biens, justement, qui sont alloués ?
Alors, la recherche aujourd'hui est essentiellement sur les petites surfaces. Donc T1, T2, ça représente 80% de la demande.
80% de la demande. Est-ce que, justement, je profite de la présence d'Olivier Principal, sur cette demande des petites surfaces, est-ce que c'est des baux de 89 ou c'est du bail mobilité, du bail civil ou du bail meublé essentiellement ?
Je crois qu'aujourd'hui, vu l'état du marché, n'importe qui cherche n'importe quoi. En fait, c'est devenu un marché complètement décousu. Bien évidemment, la demande générale, c'est d'avoir des baux longue durée, qui soient nus ou meublés, d'avoir un logement pérenne pour pouvoir se projeter. Quand on sait qu'aujourd'hui, les jeunes ne font plus d'enfants parce qu'ils n'ont pas de quoi se loger, voilà, ça démontre quand même l'état catastrophique de ce marché. Donc oui, il y a des tendances. Alors chez les professionnels, on n'a pas trop de déviance. Hein. Vous savez que sur Paris, on a quand même la chance extraordinaire d'avoir tout un tas de systèmes frustratoires, une augmentation de taxes foncières de 52%, un encadrement des loyers.
52% en combien de temps ?
En une année.
En une année ?
Oui, parce que c'est plus rigolo quand ça se fait en une seule fois. Et donc du coup, on rajoute à une tension locative, à des contraintes de rénovation énergétique, tout un tas de critères qui dissuadent les investisseurs de venir sur le marché de la location. Donc en fait, il y a des pouvoirs publics qui font rien pour soutenir l'offre. Et on arrive dans des situations comme celle-là,
bien
qui
sûr.
Sont liées à tout un tas de facteurs. Hein, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais l'augmentation
bien
des
sûr.
Taux d'intérêt qu'on a eu de manière massive, ça a bloqué l'acquisition. Les locataires qui devenaient accédants ne le sont plus devenus du tout. Donc tout le monde reste chez soi. Et
oui.
Les chiffres qu'annonçait Thomas,
c'est circulaire. C'est-à-dire qu'on sort du marché locatif pour accéder enfin à la propriété, plébiscité quand même par 87% des Français hein, veulent accéder à la propriété, donc c'est quand même un vrai sujet. On va parler justement, on reparlera bien évidemment de ce point. En termes de loyers, sur les loyers médians, apparemment ils sont quand même très en progression, quoi.
Alors, le loyer médian, malgré effectivement des contraintes législatives, l'encadrement des loyers, Olivier en parlait, effectivement apparaît comme en augmentation. On observe en fait que depuis le retour à l'inflation, en gros pour un T3, c'est une augmentation de 400 euros pour un loyer et c'est 100 euros pour un studio. Mais ce qu'il faut considérer, c'est que cette augmentation, en fait, elle est surtout à imputer...
400 euros d'augmentation pour un T3
Depuis 2021. Mais globalement, ça s'est fait exclusivement autour des charges qui ont pour le coup énormément évolué.
Bien sûr.
Les prix de la matière première, l'EDF, on n'en parle même pas. Donc forcément, quand je vous parle, moi, de prix médian, je parle le fait de prix avec charges comprises. Donc aujourd'hui, vous avez, par exemple, pour un studio, uniquement 6 arrondissements à Paris qui proposent des studios inférieurs à 1000 euros. Et le prix médian est un petit peu supérieur à 1000 euros.
Un studio qui fait quoi, 20 mètres carrés, 25 mètres carrés ?
Tout dépend des secteurs.
En moyenne, Olivier Principal, sur Paris, c'est quoi la moyenne parisienne d'un studio ?
On constate des logements petits. Moi, j'ai loué, c'est curieux, mais la semaine dernière, un appartement à 500 euros, mais en fait, il faisait 12 mètres carrés, si vous voulez. Donc, j'étais même un petit peu déçu de louer ce genre de choses. Les appartements sont petits, il y a très peu de disponibilité. On a passé un été, pour ceux qui ont l'habitude de gérer les changements de locataires en pleine période d'été. Enfin, c'était une catastrophe. On passe une annonce, bien ici, fonctionne très bien. Hein. Vous passez une annonce, en une heure, vous avez 200 appels. On n'a même pas les moyens humains et techniques pour pouvoir répondre aux demandes en agence immobilière, ce qui d'ailleurs nous déçoit dans la qualité du service qu'on veut donner à nos clients, c'est qu'on n'arrive pas à prendre le temps. Donc oui, les logements sont de petite surface et il y a une demande telle, on a même vu des dossiers de candidature à la location, les parents vous appellent, on a des lettres de motivation, on n'a jamais vu des dossiers pareils, avec même des cris d'alarme, on le sent bien, on veut payer un an d'avance, il nous faut un appartement, on parlait de gens qui se louent en location, qui se logent en location touristique parce qu'ils trouvent pas de logement en longue durée. Donc ça, on va en parler aussi.
On va aborder, si vous voulez bien Thomas, également le marché de la transaction qui a fortement évolué ces dernières années.
Oui, globalement, je disais en introduction, ça a atteint le pic en termes de volume d'offres sur la transaction en été 2023. On a multiplié par deux en 4 ans le volume d'offres donc sur Paris. Donc c'est forcément un marché qui est extrêmement à la hausse. On observe juste sur de l'année 2024, sur les premiers éléments que l'on a en termes d'information, un certain fléchissement de ce volume d'offres, donc qui n'est plus à la hausse, et avec d'ailleurs aussi une baisse un petit peu plus marquée sur ce dernier trimestre 2024. On peut peut-être y voir un lien avec les Jeux Olympiques, puisque ça correspond à ce dernier trimestre, et peut-être que certains de propriétaires ont reporté un petit peu leurs projets. Je pense que dans les mois qui viennent, on aura une vision un petit peu plus affinée pour analyser ce.
Et comment évolue la durée de diffusion des offres?
Ça va de pair, c'est qu'aujourd'hui on s'aperçoit que en moyenne sur Paris, faut compter un peu plus de 50 jours on constate plus de 50 jours de diffusion pour un appartement sur Paris.
50 jours pour vendre un appartement sur Paris.
Voilà.
Moins de 2 mois.
C'est en gros 15 à 20 jours de plus que ce qu'il y avait il y a 3 ans.
Ah oui, quand même. Et on peut l'expliquer, bien évidemment, inflation, pouvoir d'achat, augmentation des taux d'intérêt.
Absolument.
Tout s'explique, bien évidemment. Sur le côté prix, alors le prix, on va en parler tout à l'heure avec les spécialistes, mais les prix, est-ce qu'ils ont baissé à Paris? Parce qu'on a quand même un pouvoir exécutif qui a dit, on l'a entendu avec Olivier à plusieurs reprises, même à Bercy, que finalement, en ne faisant plus rien en politique du logement, les prix allaient se réguler et que Paris, enfin, allait baisser et avoir des grosses baisses de prix. Est-ce que c'est le cas?
Alors, en tout cas, ce qu'on observe, effectivement, c'est qu'il y a eu quand même une tendance à la baisse sur tout autour de Paris. Et maintenant, parler d'une moyenne, c'est toujours un petit peu compliqué parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, Paris, c'est 20 villes, pratiquement, puisque c'est 20 arrondissements. Si vous prenez, par exemple, dans le 18e, la Goutte d'Or, en fait, vous avez un prix moyen, en gros, qui est autour de 7000 euros le mètre carré. Sur les Champs-Élysées, on est un peu plus de 16500 euros. Donc la moyenne n'est pas du tout cohérente. Ce qu'il faut retenir de ce qu'on peut observer, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu, en 2 ans, on a perdu à peu près 10 000 euros sur un studio, et un T3 aussi, d'ailleurs, 10 000 euros par an. Donc en gros, aujourd'hui, le prix médian d'un T3 sur Paris, c'est 650 000 euros quand c'était 670 000 euros. Et un studio, on est arrivé sur les 200 000 euros.
Donc on peut pas franchement parler de baisse. De baisse radicale, importante, impactée. Je vais au Sébastien Cuperpis.
Je parle de l'immobilier de luxe, donc toujours un peu une parenthèse quand je commence, parce que c'est un marché spécifique, mais nous, sur notre marché, on a connu depuis un an et demi à peu près 10% de baisse de prix.
Sur le marché du luxe, de l'ultra-luxe.
Ultra-luxe, c'est encore autre chose.
Nous, on fait une distinction entre
le luxe, on va dire le luxe entre 800 000 et 5 millions d'euros. Et puis, ce qu'on appelle, nous, l'ultra-luxe, qui est un département spécifique chez nous et qui traite les biens, on va dire, entre 5 et 100 millions d'euros. Donc là, c'est vraiment très particulier et la dynamique est différente. Mais sur le marché, on va dire, des jolis biens de familles fortunées parisiennes, oui, la baisse de prix en moyenne est de 10%. Donc, en moyenne de 10%, ça veut dire que sur certains biens, on est à moins 15, moins 20, ceux qui ont des défauts. D'autres, on est à moins 5 ou pas du tout si c'est vraiment des biens absolument parfaits. Donc il y a une correction qui est assez sensible.
Bien sûr. Des prix. Cette correction est intervenue également brutalement par rapport à l'inflation, les problèmes géopolitiques, l'énergie, non, la baisse des taux. Parce que sur ce type de gamme, on pourrait s'attendre à ce que les personnes, finalement, aient moins recours au crédit ou
oui, mais en réalité, c'est un marché. Évidemment, nous, on a 70% de nos clients qui ne font pas de conditions suspensives de prêt. Mais la réalité, c'est que pour tout un tas de raisons, notamment fiscales, puisque vous avez votre IFI se calcule sur la valeur nette de votre bien, la valeur moins la dette, même les gens qui ont les moyens d'acheter cash, souvent empruntent. Et donc, on est quand même impacté par la hausse des taux. Et en effet, la hausse des taux, c'est ce qui a été le driver principal de la baisse des prix. Et là, on en reparlera tout à l'heure, mais le marché est quand même pas mal reparti en septembre, grâce en partie à cette baisse des taux récente.
Alors, on va parler quand même, donner des exemples. J'aimerais bien avoir des exemples de prix. Vous avez fait un petit détail. Donc, 10 000 euros, vous avez dit, par an, sur les deux dernières années, pour arriver sur un prix médian à 650 000 euros.
Pour un 3 pièces.
Pour un studio, on est à combien?
Aux alentours des 200 000 euros.
200 000 euros.
Oui, et puis, juste une précision, c'est qu'effectivement, chez Bienici, en fait, on établit des données par rapport aux prix qui sont affichés. On n'est pas du tout dans la confidence. Des négociations.
Oui, bien sûr. Mais vous avez raison de préciser le.
En effet, il y a un biais parce que les négociations ont lieu après, et donc on ne vous l'avait pas forcément sur le prix d'affichage.
Absolument.
Les marges de négo ont augmenté.
Moi, Olivier Principal.
Ce que je disais quand même, c'est que la baisse des prix dans Paris, elle est enclenchée depuis 2019. On aurait pu penser que c'est un phénomène très récent, mais depuis 2019, Paris perd de sa valeur. Ça s'est enclenché avant les autres villes de France, qui, elles, au moment du Covid, ont eu un décrochement au niveau des prix. Mais Paris, c'est 2019. Alors, on peut le corréler à un élément politique qu'on connaît, c'est l'encadrement des loyers. C'est-à-dire que, de manière générale, on fait baisser la valeur des biens, parce que l'encadrement des loyers obère la rentabilité locative de n'importe quelle personne qui voudrait investir dans Paris. Et du coup, on a beaucoup moins de gens qui viennent se ruer au portillon pour aller faire de l'investissement locatif dans Paris, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure.
Et est-ce que cet encadrement a été cause de désinvestissement des investisseurs privés, petits bailleurs?
C'est évident, c'est une évidence absolue.
D'accord. Ça les a vraiment
dissuadés. Il y a un déni absolu national de mettre en relation la mise en place de l'encadrement des loyers avec la crise immobilière qu'on rencontre aujourd'hui. Je dis c'est un déni parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec des représentants de la ville de Paris il n'y a pas très longtemps, où on m'a dit, Monsieur Principal, on est horrifié, la vacance explose dans Paris, mais on veut surtout pas parler avec vous de l'encadrement des loyers. Bah, j'ai écouté, vous pouvez parler de ce que vous voulez d'autre, si vous voulez de la pluie du beau temps, mais à un moment donné, c'est la réalité. Hein, on peut pas toujours contraindre les mêmes populations d'investisseurs et se rendre compte qu'on n'a plus de biens à louer dans Paris, c'est ce qu'on a rencontré cette année, et on a ça partout.
Sébastien.
Non, mais on a une illustration récente, je sais pas si vous avez vu qu'en Argentine, le président libéral a décidé du jour au lendemain de retirer l'encadrement des loyers, parce qu'il y avait un encadrement des loyers qui était mis en place là-bas. Et l'offre de logement, j'ai pas le chiffre exact, je vais pas dire de bêtises, mais a littéralement explosé en l'espace de quelques semaines. Et les prix n'ont pas augmenté, en dépit du fait que l'encadrement a été enlevé.
Donc finalement, ça a démontré une chose, c'est que si sur le papier, c'était pas une mauvaise idée, on pourrait dire parce qu'il y avait des gens qui avaient pas les moyens, mais en pratique, en fait, ça fonctionne pas, quoi.
Non, mais moi, je suis pas d'accord. C'est pas une super idée. C'est bien de rassurer tout le monde en disant on va bloquer les loyers avec des règles de calcul.
Olivier Principal, les loyers étaient très chers.
Oui, monsieur Olivier, allons-y. Les loyers sont chers parce que la France ne construit pas assez. D'accord? Si on construit, qu'on amène de l'offre, du coup, on répond à la demande et les prix ne sont pas en tension. Sauf qu'on passe son temps à compliquer les règles de construction, à augmenter les normes de construction. Donc, en réalité, on ne construit pas assez. Je rappelle aussi que pendant les périodes d'élections municipales, on a des maires courageux, mais il y en a aussi beaucoup qui sont, pendant les deux ans qui précèdent les élections et pendant les deux ans qui les suivent, ne font rien du tout en matière de construction. Donc, on a de la demande, on n'est pas capable d'y répondre. Donc, à un moment donné, si on a ça et qu'on fait que des politiques publiques qui sont contraignantes, on ne peut pas arriver à détendre les prix. Donc, on fait un placebo. On met en place l'encadrement des loyers, qui mathématiquement fonctionne, puisqu'à partir du moment où vous encadrez, vous avez des prix qui sont moins élevés, mais on se retrouve avec un effet inverse, l'effet de bord, qui est de supprimer l'incitation des investisseurs, la venue des investisseurs, et nous, on crie ce signal d'alarme depuis la mise en place de l'encadrement des loyers, et on a une petite musique qui tourne en France partout où ils veulent le généraliser, mais on veut généraliser l'encadrement des loyers sans appuyer sur la touche de la construction. Et si on ne construit pas, on aura une crise qui sera encore plus grave que celle qu'on traverse aujourd'hui.
Vous avez absolument raison. absolument raison. Et les chiffres sont têtus. C'est-à-dire qu'ils plaident absolument pour vous. Le constat est quand même délétère. On va, pour cette première partie d'émission, faire une petite synthèse avec vous, Thomas. Est-ce que vous avez d'autres constats partagés avec nous ?
Écoutez, non, le constat, c'est qu'aujourd'hui, si on se réfère à Paris, c'est que, encore une fois, ça reste un observatoire d'évolution et qui donne des tendances, en fait, sur ce qui se passe sur les marchés en proximité, notamment sur, on le voit sur la première couronne, deuxième couronne. Voilà, il y a quand même des indicateurs qui récemment nous font dire qu'il y a quand même un sentiment d'amélioration, en tout cas, d'un peu mieux. Je voyais tout à l'heure quelques données sur le fait que vous avez 5 arrondissements à Paris aujourd'hui qui, sur le marché de la transaction, en fait, indiquent des prix, inférieurs à 10 000 euros du mètre carré. Encore une fois, c'est des prix affichés. On est donc au troisième trimestre, donc 2024. Il faut savoir qu'en début d'année, c'était le double. Donc il y avait 10 arrondissements qui affichaient des prix à moins de 10 000 euros du mètre carré. Donc ça a tendance à signifier plutôt une reprise, en tout cas un mieux, et c'est plutôt là-dessus qu'il faut partir.
C'est d'ailleurs l'objet de la deuxième partie de l'émission. En plus, pour une fois, on est dans les clous en termes de timing, donc je suis très content. Merci Théo. Je vous propose, avant de passer au débat avec vous messieurs, un petit reportage justement où on est allé sur le terrain pour interroger des agences très typiques du marché parisien. Je vous propose qu'on le découvre tout de suite maintenant.
Je suis Jérôme Delahaye, j'ai créé l'agence immobilière Paris 15 en 1993. Nous sommes donc installés dans ce quartier du métro Emisola et de la rue du Commerce, quartier très dynamique et très animé. Il faut inciter un peu plus les institutionnels et aussi des investisseurs privés à acheter, ce qui n'est pas le cas. Cette clientèle revient difficilement vers le marché immobilier parce que avec toutes les contraintes fiscales, avec aussi les contraintes de diagnostic, d'encadrement des loyers, ce qui n'est pas une mauvaise chose pour moi, l'encadrement des loyers. En tout cas, ça permet de dire à certains propriétaires, nous, si c'est pas, vous ne respectez pas l'encadrement des loyers, on ne prendra pas le bien. Il est évident que avec toutes ces contraintes qu'on a mises sur ce marché de l'investissement, pas grand monde aujourd'hui est incité à acheter alors qu'on a énormément de demandes de location. Je sais que certains disent que cette crise, on l'a connue. Après la sortie du Covid, où on a tous très bien travaillé, à partir de 2022, ça a été plus compliqué. Pour moi, septembre 2023, ça a été un marqueur. On a déjà, à partir du mois de juin, commencé à sentir un changement. Septembre, on a revu toutes nos estimations. Toutes les estimations qu'on avait fait avant, on s'est rendu compte que le marché changeait. On était venu sur un marché qui était très déraisonnable. Les prix avaient augmenté énormément. Donc, on est en dessous la valeur des biens, je trouve, aujourd'hui. Mais on retrouve, en tout cas, on est sur un marché qui correspond beaucoup plus à une réalité. Et je pense que certains auront profité de cette période. D'autres qui ne l'auront pas fait le regretteront. Et on repart sur un marché qui ressemblera plus à ce qu'on a connu les dernières années. Il y a très, très peu de transactions qui ont été faites par rapport aux années 2000 ou 2021. On est plutôt à 770 000 transactions sur Paris, alors qu'on a connu des 1,2 million de transactions. Donc là, on est sur une période particulière, mais en 31 ans d'immobilier, j'ai un peu tout connu. Donc c'est pas nouveau. Ça a été très brutal quand même, je trouve. Mais on est sur un marché qui est plutôt assaini aujourd'hui. Le marché parisien restera le marché parisien. On n'a aucune inquiétude à partir d'un moment où on a un bien sur Paris. Le bien trouvera toujours acquéreur. La difficulté aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux vendeurs. On n'est plus sur le marché qu'on a pu connaître. Voilà, il reprend des couleurs. Le marché est mieux maintenant. Mais je n'ai pas d'inquiétude le marché parisien reste un vrai moteur. Et retrouvera du dynamisme.
Merci Alexandre Burkhardt. Applaudissements pour notre réalisateur. Merci. C'est intéressant justement de voir ce témoignage. Et je vous propose maintenant, mesdames et messieurs, justement d'en discuter très concrètement avec les professionnels sur le plateau. C'est tout de suite après ça.
Bien ici, bien chez vous, le grand débat.
À la place au débat avec nos invités, je rappelle que Sébastien Cuperpis, vous êtes le président du groupe Juno, spécialisé dans l'immobilier de prestige et de luxe, et Olivier Principal, le président de la Fédération nationale de l'immobilier pour l'Île-de-France, Paris-Île-de-France, toujours accompagné de Thomas Barbier, directeur régional Île-de-France pour Bien Ici. Merci d'être avec nous. Première question, messieurs, justement. Le marché immobilier, globalement, je vais commencer par vous, Sébastien Cuperpis, il se porte comment si on devait faire une photographie avec le recul que l'on a sur les deux dernières années qui ont été particulièrement dures pour le marché immobilier de la transaction?
Alors, moi, je m'exprime encore une fois sur Paris, principalement, et sur l'immobilier de luxe. Je vais peut-être commencer avec une note un peu positive, on en a un peu besoin.
Ça va nous faire du bien.
En disant que nous, on a fait une super rentrée septembre. Beaucoup d'activités, une hausse de 115% des demandes d'estimation. Et puis, un volume de transactions qui a été notre record depuis toujours. Et donc, on sent bien, là, en cette rentrée de septembre, il y a différents facteurs, notamment les JO qui avaient un peu gelé un certain nombre de choses. Mais on voit bien que on recommence à avoir des offres multiples et potentiellement au prix sur des appartements. On recommence à vendre des appartements assez vite et dans certains cas à des prix très élevés. Donc moi, mon sentiment, c'est qu'on a souffert évidemment de cette hausse de taux très rapide et très forte qui fait que le financement est devenu quasi impossible. Ensuite, il y a eu d'autres sujets. Il y a eu le sujet politique avant les vacances où là, en tout cas sur le marché du luxe, on est particulièrement impacté puisque en général, l'immobilier, c'est un marché de confiance, mais en particulier dans le luxe, si vous avez la possibilité d'avoir des gens qui veulent taxer le capital et les riches, bon bah évidemment, la confiance est un peu moins là. Donc on va dire qu'on est revenu à une situation un peu plus normée. Et donc, je trouve que c'est un marché qui a été très challenging, qui s'est un peu apuré. Clairement, le Covid a créé une situation anormale. Les taux ont baissé anormalement, les prix ont beaucoup augmenté, les volumes aussi. Et là, on est revenu dans un marché, que je trouve relativement équilibré. Et je pense que, sauf facteurs exogènes qu'on ne maîtrise pas, on est plutôt parti sur une meilleure tendance que l'année dernière ou ce début d'année.
Donc, je vous voyais confirmé, Olivier Principal, partagez le même sentiment? Oui, une reprise, des indicateurs de reprise?
Je suis complètement d'accord et ça se ressent sur Paris, mais aussi sur l'Île-de-France entière et quels que soient les types de marchés. À partir du moment où on annonce des taux à la baisse, que les banques ouvrent le robinet, parce que les taux c'est bien, mais si les banques ont pour instruction de ne pas prêter, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'accompagnement dans l'investissement. Donc les banques
et les prêts relais qui reviennent aussi, qui permettent de débloquer le marché avec des gens qui achètent avant de vendre.
Et puis nos clients qui ont changé leur façon de financer. On avait pour habitude pendant des années, on a prêté à 110%, c'est-à-dire que vous n'aviez pas d'argent de côté, vous pouviez acheter un bien immobilier. Aujourd'hui, on est revenu sur effectivement quelque chose de plus normal avec un apport conséquent. Et en fait, nos clients se sont adaptés aussi en mobilisant plus leur apport. Donc nous, on est aussi satisfaits de voir qu'il y a des frémissements qui sont meilleurs. On attendait quand même la fin des JO et puis surtout qu'on ait aussi des ministres et un gouvernement, parce que je vous avouerai que ça cristallise comme à chaque fois qu'on a des changements politiques. Donc les choses reprennent et je pense que entre cette fin d'année et le printemps prochain, que j'espère très dynamique, parce que le printemps c'est toujours une période particulièrement agréable dans l'immobilier, c'est là que tous les projets se construisent, je pense qu'on devrait être dans le bon sens.
Au niveau du syndicat, pour les adhérents d'Île-de-France, hein, c'est vous qui avez le plus adhérent d'Île-de-France, agent immobilier, administrateur de biens, syndic de copropriété. Vous le sentez parmi vos confrères et vos consoeurs, justement, que dans ce qu'ils vous disent, où ils ont eu des moments très durs, vous sentez des éléments de reprise des agences, certaines d'ailleurs malheureusement qui ont fermé également, mais on voit bien qu'aujourd'hui, voilà, ça se stabilise.
C'est évident que la période n'est pas super simple pour nous. Nous, on est un peu l'avocat de la profession, mais à un moment donné, quand les conditions économiques ne permettent pas de faire bouger les lignes, on ne peut pas arriver à faire de miracles. Alors, quand on voit des confrères qui déposent le bilan, qui ferment leurs entreprises, qui licencient leurs collaborateurs, bien évidemment, ça fait mal. Aujourd'hui, ça a été très violent, très rapide. On est sur une autre dynamique. On a quand même plus de confrères qui voient des signaux encourageants. Donc, bien évidemment, on a été dans des périodes où on est passé à 1 200 000 transactions. Peut-être que le curseur est plutôt aux alentours de 900 000 sur des marchés normaux. C'est un marché qui se régule de lui-même. Il s'est toujours régulé par période. Et Aujourd'hui, en tout cas, on est dans une meilleure dynamique. On voit un peu le bout du tunnel. Par contre, on ne voit pas les pouvoirs publics qui, à part faire des effets d'annonce pour nous dire qu'il faut sauver le logement, on n'a pas encore vu les actes. Hein, et je peux vous dire que dans le projet de loi de finances qui arrive, on a plutôt vu l'inverse. Donc,
Justement, on peut pas ne pas en parler puisque le projet de loi de finances a été rendu public. Hein, on l'a. Et d'ailleurs, j'ai reçu pas plus tard que tout à l'heure le communiqué de presse du ministère du Logement dans le fil info des journalistes. Justement, il y a quelques éléments, voilà, qui nous rendent dubitatifs. Je voudrais quand même qu'on fasse un focus sur votre marché, Sébastien Cuperfis, dont on pense de l'extérieur qu'il est un micro-marché. Est-ce que c'est un micro-marché? Et comment finalement vous avez abordé l'idée que vous percevez des signes de reprise, mais j'aimerais que vous nous parliez un peu plus de vous. Voilà. Juno, c'est une marque hein, qui est très connue, reconnue. Rappelez-nous d'abord, voilà, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, le très peu de personnes qui ne vous connaîtraient pas, quelle est l'histoire de Juno et comment finalement votre groupe est devenu aujourd'hui, sur Paris, et c'est vrai, la référence du monde du prestige et du luxe
et gentil.
Immobilier parisien.
On est une société familiale. Historiquement à Montmartre, aujourd'hui on a une vingtaine d'agences à Paris et c'est intéressant parce que ça nous permet, et on est 150 collaborateurs, et ça nous permet d'être un peu partout et du coup d'avoir des antennes qui sont très complémentaires de celles de Bien Ici par exemple qui a les annonces, et nous on a l'activité parce qu'on a des gens en data qui toutes les offres acceptées, donc au moment où vraiment ça se fait, c'est-à-dire vraiment 6 mois avant la vente définitive, on sait ce qui va se passer. Et donc souvent, on est au courant de ce qui se passe sur le marché, d'abord un peu en avance parce qu'on est à Paris et que souvent le marché national suit Paris, et aussi en avance parce qu'on a les infos avant les notaires, et même parfois un peu devant les portails, mais on n'a pas exactement les mêmes infos. Nous, on est une société de service qui s'est spécialisée dans un très bel immobilier.
En quelle année a été créé le groupe Juno?
Ça a été créé il y a 40 ans. Donc c'est une vieille maison. On fait un métier magnifique, extrêmement intéressant, au service de nos clients qui sont, quand ils vendent ou qu'ils achètent ou qu'ils louent, parce qu'on a aussi une activité de gestion et de location, dans un truc tellement important pour eux, tellement avec des enjeux financiers tellement importants, que on fait un métier franchement de rêve, qui a été, c'est vrai, un peu plus difficile ces dernières années, mais moi j'ai tendance à penser qu'avant il était anormalement peut-être un peu trop facile, et là on est revenu dans une situation
où le professionnalisme prédomine, la compétence. Et ouais. Le fait que c'est un métier qui ne s'improvise pas. Voilà.
C'est un vrai métier. C'est un vrai métier complexe, difficile. D'ailleurs, il y a beaucoup d'agents immobiliers qui, loin de l'image qui peut être véhiculée,
l'image télévisuelle,
voilà, ont du mal à joindre terminer les fins de mois parce que souvent c'est des indépendants qui n'ont pas de régime de protection. Voilà, donc
c'est très important ce que vous dites là, merci de le dire, parce que il y avait un livre qui a été publié par une chercheure au CNRS justement sur les agents immobiliers, notamment d'indépendants, qui s'appelle La précarité en col blanc. Oui. On avait reçu d'ailleurs cette jeune chercheuse, effectivement, et d'ailleurs Olivier Principal souvent plaide sur la formation et la qualité des collaborateurs, le renforcement, parce que vous pensez, et vous avez raison, que ce métier ne se structurera essentiellement par la capacité de ces professionnels à être finalement un peu contracyclique, c'est-à-dire que quand on est très bon professionnellement, on résiste mieux à la crise.
Évident, on parlait d'enjeux familiaux, mais on accompagne les locataires, les propriétaires dans leur projet de vie, dans la réussite de leur vie et dans la transmission de leur patrimoine à leurs enfants. Donc on ne peut pas se permettre dans l'amateurisme, on n'est pas des ouvreurs de portes. Hein, on fait des analyses juridiques, techniques, économiques. On accompagne des projets, on étudie de la fiscalité, et puis on est là pour garantir la réussite d'une opération. C'est pour ça que quand on lit parfois certains rapports d'État qui veulent banaliser le travail de l'agent immobilier pour nous inciter à faire toujours plus avec moins, faut pas oublier que l'agent immobilier, c'est quelqu'un qui n'est payé que lorsqu'il réussit. Hein, c'est-à-dire que il y a quand même beaucoup d'échecs avant d'arriver à une réussite de transaction, donc c'est important de noter que c'est quand même une sécurité. Et si aujourd'hui on a 80% presque des transactions j'exagère un peu parce que je sens que ça va reprendre, je suis motivé pour les 2025, mais si aujourd'hui 7 Français sur 10 font appel à des agents immobiliers sur un marché qui est extrêmement libéral, c'est que la plus-value du professionnel, elle est là, elle est connue, elle est reconnue, et pourvu que ça dure, et on continuera à tirer vers le haut grâce à la formation initiale, grâce à la formation continue, et grâce à tout un tas d'outils qui nous permettront de sécuriser les investissements d'une vie. Je crois que tous les professionnels partagent ce point de vue.
Alors, on nous pose des questions. Justement, je profite de la présence de Sébastien Kuberfis. On me pose la question, y a-t-il une différence entre le marché du prestige, le marché du luxe et le marché du charme, des maisons atypiques?
Oui.
Alors, parce que souvent, on a tendance un peu à confondre. Vous pouvez nous
c'est un peu la définition, déjà, si on s'attache au luxe. Moi, il y a une définition du luxe que j'aime bien, c'est à un endroit donné, ce sont des biens immobiliers qui sont rares, qui sont recherchés et qui sont sensiblement plus chers que la moyenne des autres. Et cette définition, elle permet, parce qu'en fait, il y a du luxe partout. Et le luxe, ça peut être un hôtel particulier à 30 millions à Paris, mais ça peut être aussi un petit appartement à Saint-Malo avec la vue sur la mer qui est magnifique. Donc, moi, j'aime bien cette définition du luxe qui n'est pas mise dans des cases de prix.
D'accord.
Ceci étant dit, nous, on fait du luxe. On a Juno qui fait des biens, je vous ai dit, entre la moyenne, c'est autour d'un million cinq. Et après, on fait ce que nous, on appelle de l'ultra-luxe, parce qu'on est obligé de le classifier. On a un autre département qui s'appelle Juno Fine Properties Knight Frank, où là, le prix moyen de vente est autour de 13 millions. Et on est obligé de faire cette décomposition parce que là, on a les clients sont différents en fonction de tes deux marchés. On va avoir 85% d'étrangers sur ce marché d'ultra-luxe versus que 15% pour le marché du luxe. Voilà, on est plus sur les mêmes dynamiques et plus sur les mêmes gens.
Bien sûr, merci pour cette précision. Paris a récemment accueilli les Jeux Olympiques, on a beaucoup parlé, et ça fait couler beaucoup d'encre. On ne peut pas dire que ça a été profitable aux restaurateurs, aux hôteliers. Mais y a-t-il eu, ou pas, une incidence sur le marché parisien, Olivier Principal?
Alors la première incidence qu'on a eue, c'est de bloquer encore plus le marché locatif, hein, puisque les biens qui se retrouvaient vacants sont restés cristallisés pendant un moment parce que beaucoup espéraient pouvoir louer à prix d'or à une clientèle touristique. Donc quand on a vu que à quelques semaines des Jeux Olympiques, les hôtels avaient du mal à se remplir, bien évidemment, les gens ont déchanté, et c'est tant mieux. C'est tant mieux parce que l'immobilier ne doit pas être vu comme étant une niche fiscale dans laquelle on peut faire de la spéculation. L'immobilier, c'est du marché de long terme, c'est un marché social dans lequel on loge des gens et qui doit être protégé, qui doit être mis en avant. Donc oui, on a vu quelques travers, on a eu des tentatives de certains bailleurs non intermédiaires qui avaient tendance à vouloir mettre leurs locataires dehors pour faire un peu d'argent. Voilà, nous on attendait que ça passe parce que en fait ça, les Jeux Olympiques ont un peu déréglé les usages habituels en matière de mise à disposition d'offres dans un marché qui était déjà assez contraint. Par contre ça n'a pas ni fait exploser les prix ni changer les choses. Par contre on a remis en avant Paris aux yeux du monde grâce à ces Jeux Olympiques qui ont été vraiment une réussite.
Ça a été une belle réussite. Hein. Ouais,
donc,
on peut le dire.
Bah, écoutez, si ça peut porter un peu notre marché, tant mieux. Hein. Bon, en tout cas, ça a pas changé les choses du jour au lendemain.
C'est très clair. Sébastien, vous avez senti un impact?
Non, je suis un peu sur la même longueur d'onde. Pas de changement majeur. Grosse déception, mais ça, nous, on l'avait prédit des gens qui pensaient faire fortune pendant l'été, et du coup une rentrée où on a beaucoup de projets soit de mise en location soit de mise en vente qui avaient été ajournés qui arrivent sur le marché, donc un stock qui augmente. Et sinon, nous, ce qu'on a constaté cet été, c'est à peu près la même activité que les autres étés, mais par contre on a fait des ventes moins à des prix je crois qu'on est à près de 20% inférieur en prix moyen de vente sur les 3 mois de l'été par rapport à l'année dernière. Et alors il y a probablement un aspect politique à ça, parce qu'on était un peu dans l'incertitude, et aussi parce que les étrangers qui sont venus et qui fortunaient probablement avaient d'autres choses à faire ou hésitaient, mais en tout cas, ça a été pas du tout l'Eldorado comme on aurait pu l'imaginer. Mais par contre, merveilleux moment, qui, je suis d'accord, fait du bien à l'image de Paris et de la France sur le moyen long terme.
Alors, bien ici, bien chez vous, c'est aussi une émission où laquelle on se dit tout, on se dit presque tout. La mairie de Paris, alors... Et où je peux en venir.
Vous allez me chauffer.
C'est récemment exprimé notre maire préféré sur l'offre de logement tendue à Paris et pointe comme cause potentielle de la hausse des logements vacants dans la ville, en disant finalement on a des propriétaires qui captent une partie de l'offre et qui finalement assèchent complètement le marché. Cette sortie un peu délétère, tout le monde a réagi autour de cela. Sentiment, Olivier Principal. On est en poli.
Sylvain, vous avez mis une pièce dans la machine, donc je vais y aller cool. Déjà, je pense que Paris est en avance sur toutes les autres agglomérations, sur la mesure de son marché immobilier et sur l'identification des freins ou des problématiques. Donc là-dessus, on peut soutenir que, notamment dans la lutte contre la prolifération des locations touristiques qui assèchent le marché de la location longue durée, Paris est en avance, ils ont mis des systèmes de contrôle en place, donc là-dessus, on peut quand même saluer cette organisation. Bon, par contre, d'avoir été les premiers à faire l'encadrement des loyers, l'augmentation de la taxe foncière, des sites avec des noms ton bailleur si t'as dépassé ton loyer. Enfin, moi, ce qui m'inquiète toujours comme ça, c'est quand on fait du dogmatisme ou de l'idéologie et que ça se, se propage.
C'est à cause des logements vacants qu'on tend
le. Attendez, on nous parle de centaines de milliers ou de millions de logements vacants. On a des études qui nous disent qu'on a 3 millions de logements vacants. Et puis quand on enlève, quand on essaie d'identifier les vrais logements vacants, on arrive à 300 000 sur le territoire national et sur Paris, tellement moins de 100 000. Donc bon, à un moment donné, on va pas en faire non plus une histoire. Mais il y a quand même des discussions dans les couloirs où on essayait de trouver comment récupérer ces appartements laissés vacants par ces méchants propriétaires qui avaient décidé d'être là qu'un mois par an.
C'est-à-dire qui préfèrent les laisser vides plutôt que de les louer.
Non, mais il y a un moment donné, il faut aussi laisser les gens qui ont acheté un bien immobilier pour en jouir librement. C'est prévu dans la Constitution de faire ce qu'ils en veulent. Et si Paris veut s'occuper de loger les Parisiens, Paris a qu'à construire, a qu'à surélever, a qu'à utiliser les parcelles foncières qui sont encore constructibles et sur lesquelles on peut faire de l'amélioration. Et là, on va créer de l'offre et on va faire quelque chose. Donc, on peut toujours faire des effets d'annonce. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup trop de contraintes sur la ville. Et,
c'est un faux débat, non ? Les logements vacants est un faux débat, en réalité.
Oui, parce qu'en réalité...
C'est une façon de capter l'opinion et de l'orienter sur ce sujet-là pour ne pas mettre le nez dans le réel problème.
Moi, j'ai un peu de mal avec la politique politicienne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir des grandes idées. Je crois qu'il faut écouter aussi les professionnels de terrain et mesurer les choses avant de prendre, de faire des actions ou de prendre des mesures politiques. Sauf qu'aujourd'hui, on est tous dans les effets d'annonce. Enfin, on voit bien des politiques qui sont les effets d'annonce, très peu dans la pratique du terrain. Donc,
bien sûr.
Il y a un moment donné, il va falloir changer de braquet.
Hein. Sébastien Cuperfis, réaction ? Est-ce que vous l'avez vu, cette sortie ?
Oui. Non, mais on met des contraintes dans tous les sens. On met une fiscalité confiscatoire qui fait que le rendement, in fine, est quasiment négatif. Et après, on s'étonne que les gens ne louent pas leurs biens. Bah oui, ils font autre chose. Ils les vendent. Pour les étrangers, ils les gardent que pour eux. C'est vraiment une situation, c'est une situation qui est
délétère, on va dire.
Délétère.
J'ai une question, bien évidemment, on l'a vu, puisque je l'ai abordé tout à l'heure, le projet de loi de finances. Voilà. Et il y a aussi un autre projet qui a été adopté au Parlement, vous le savez, Olivier et Sébastien, au Sénat comme à l'Assemblée nationale, et qui vient de terminer son parcours à la conférence mixte, à la commission mixte paritaire, qu'on appelle la loi Lemeur, la loi d'Anaïg Lemeur, députée de la première circonscription du Finistère. L'idée, je vous la fais courte, c'est l'alignement de la fiscalité du meublé saisonnier et du meublé et de la fiscalité des baux nus. Est-ce que Olivier Principal, cette mesure qui dit que les abattements dont bénéficiait l'immobilier saisonnier vont être finalement alignés sur la fiscalité des baux longs, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le marché ?
Alors,
parce qu'on a vu sur les sites internet...
On en a parlé tout à l'heure, on a vu des travers. Le marché de la location longue durée... et si on prend le marché de la location meublée classique, loi du 6 juillet 89, qui était pour des baux minimum d'un an, même ce marché-là s'est vu asséché. Parce que le marché de la location touristique, avec 71% d'avantage fiscal, à un moment donné, 0, 71, il y a de quoi discuter. Mais, non, mais
finalement, on comprend le propriétaire.
Annaïk Lemeur a très bien fait de se saisir du sujet, parce qu'en réalité, ce qu'on a rencontré à Paris dans un premier lieu, on l'avait dans d'autres grandes métropoles.
Bien sûr.
Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas avoir, pour un logement, autant de disparités fiscales.
Fiscales et techniques, hein, le DPE, obligatoire.
Autant de disparités fiscales. Et puis derrière, se dire que les propriétaires bailleurs qui louent de manière vertueuse pour la longue durée pour loger les Français, eux sont assujettis à une obligation de rénovation énergétique, ce qui n'est pas le cas pour les locations touristiques. Donc à un moment donné, il faut aussi écouter ça. Donc Annaïk Lemeur a fait cette proposition. Nous, on était favorables au rééquilibrage fiscal. Par contre, ce qu'on attend quand même, c'est que on mette plutôt en avant la location longue durée, avec des avantages fiscaux sur la location longue durée pour éviter ces effets de travers qu'on a pu avoir avec la location touristique. Donc, par contre, je pense qu'ils sont allés un petit peu plus loin quand même. Parce que là, on parlait de supprimer les amortissements liés à la location meublée pour le LMNP.
Absolument.
Bon, ça, on l'avait pas vu pas trop venir.
On en parlait avec Sébastien Rantaine, justement. Votre réaction, justement, sur l'alignement fiscal et la volonté, pour être très clair, hein, la volonté de briser, finalement, la tension qu'il y a, notamment sur les zones tendues et les zones balnéaires, par exemple, pour rendre de l'immobilier longue durée pour des personnes qui restent bailleurs, notamment, par exemple, dans certaines villes dans lesquelles il y a des mécanismes de compensation, c'est-à-dire, si vous faites un loyer sur un meublé, vous devez avoir la même surface mise à disposition sur un bail de longue durée. Sébastien.
Comme tu le disais, le travail a été fait à Paris. Aujourd'hui, on ne peut pas louer en meublé son bien sans demander une autorisation à la mairie de Paris. Et si vous parlez à des gens qui viennent à Paris en tant que touristes, ils vous disent quoi ? Ils vous disent il n'y a pas assez d'hôtels, les hôtels sont trop chers. Donc en réalité, l'offre de meublé touristique parisienne, elle est inférieure à la demande. Alors, en effet, on peut la sécher, mais le problème, c'est toujours la même chose, c'est qu'au lieu de rendre plus attractif la location à long terme, et c'est pas que de la fiscalité, c'est aussi des contraintes.
Mais bien sûr.
C'est aussi pouvoir récupérer son logement si j'ai mes enfants qui viennent à Paris et que je veux dans un an le récupérer et pas attendre 3 ans. C'est aussi ne pas avoir à payer 2 ans de loyer si mon locataire ne paye pas et qu'il faut que je fasse une procédure et que tout est à mal. Voilà. Donc c'est toute cette liberté, cet avantage. Et puis après, on va plus loin, on va dans l'avantage fiscal de l'immobilier par rapport au financier. On voit bien qu'il y a ce travail de sape qui a été fait, où il n'y a que l'immobilier qui est assujetti à l'impôt sur la fortune, il n'y a que l'immobilier qui est assujetti à l'impôt sur le revenu qui monte à 60% au taux marginal, quand vos actions sont taxées à 30% pour l'instant,
oui.
Voilà, et sortent de votre impôt sur la fortune. Donc il y a vraiment, on est complètement schizophrène, parce qu'on veut que les gens, qu'il y ait de l'investissement immobilier, qu'il y ait une offre locative, et puis en même temps, on retire tout le rendement. L'être humain, il va là où est son intérêt, et donc on n'arrivera pas à...
C'est bien que vous disiez ça, parce que souvent, moi qui ai l'habitude de faire beaucoup de villes de France, et avec Olivier on en parle très très souvent, il y a toujours cette idée du méchant spéculateur de droite, capitaliste, qui capte les biens au profit finalement de personnes mal logées, en précarité, etc. Juste pour casser les mythes, le coefficient de détention patrimoniale en France, il est de 1,1. Autrement dit, les Français ont un bien. Un. Leur résidence principale, et de temps en temps, ils ont peut-être un petit investissement. Déjà, ça tord le coup. Alors, bien évidemment, on a des gros propriétaires, etc. On dit pas le contraire. La deuxième chose, c'est que 62% du marché locatif privé, et vous le savez, Olivier, loge des personnes qui seraient éligibles au logement social. Donc on a besoin du marché privé pour équilibrer la tension sociale sur l'accès au logement. Alors justement, je fais cette transition pour ma dernière question avant de la rubrique préférée que nous aimons beaucoup, qui s'appelle « Ça fait rêver ». On va rêver avec vous, Sébastien. Vous allez nous montrer un bien de toute beauté. C'est le discours de Michel Barnier. Il y avait 6 points, voilà, dans le discours de Michel Barnier, 6 points sur la relance du marché immobilier. L'assouplissement du calendrier de la rénovation énergétique, l'élargissement du PTZ, de rebooster et de redonner des marges de manœuvre au logement social. On a évoqué en partie la fiscalité, relativement flou, pour ne pas s'aventurer sur des engagements budgétaires, ainsi que la révision sur les modalités d'investissement d'aide sur la rénovation énergétique. Ça y est, c'est tombé, on a un projet. 1,25 milliard d'euros de moins pour la rénovation énergétique. Boum. Élargissement du PTZ, c'est pas encore assez clair parce qu'on sait pas si ça va s'appliquer à tous les logements et dans toutes les régions, mais a priori ça devrait être précisé. Le ministère nous a confirmé que ça serait partout. Voilà.
C'est une bonne nouvelle par contre.
Pardon ?
Ça, c'est une bonne nouvelle pour soutenir l'accès à la propriété pour les primo-accédants. Okay. On a salué cette mesure.
Absolument.
Et c'est toujours entre l'idée du démarrage et le texte qui est pondu à la fin, on a toujours quelques déceptions qui arrivent. Donc, on attendra la version définitive.
On a regardé le reste. Désolé, il n'y a rien d'autre.
Non, mais rien. Il n'y a rien.
Déçu ? Non, mais quand je dis déçu, c'est que
On a entendu dans la bouche de tous les politiques pendant cette campagne électorale que le logement, c'était la priorité absolue. Et pour l'instant, j'ai pas encore vu où était l'avantage dans cette modification législative. Donc je pense que le gouvernement est dans une telle contrainte économique. De toute façon, ils feront d'abord des économies avant de faire autre chose. Tout à l'heure, tu disais un truc assez rigolo, c'est que le baron Haussmann a mis 17 ans pour descendre 30 000 immeubles. Il aura fallu beaucoup moins longtemps à notre ligne politique actuelle pour descendre le marché immobilier, le marché de la construction. Donc, et à un moment donné, ce serait bien de faire des vraies mesures qui remettent le marché dans l'autre sens.
Réaction sur le projet de loi de finances, vous l'avez consulté, Sébastien ?
Oui, mais je veux pas... D'abord, je pense en effet que malheureusement, il n'y a plus de marge de manœuvre financière. Donc, je ne suis pas choqué que l'État finalement réduise les dotations. Ce qui me choque plus, c'est qu'on fasse porter aux propriétaires immobilier privé, le coût de la rénovation énergétique, alors qu'il n'en a souvent pas les moyens, parce qu'on est dans cette idéologie, en effet, de si je suis propriétaire, ça veut dire que j'ai de l'argent, donc je suis riche, et donc politiquement, je peux aller taper dessus, il n'y a pas trop de dommages. Mais il y a plein de choses à faire. Enfin, je lisais une étude suédoise passionnante sur le fait de peindre en blanc les bâtiments qui est sur le dessus. A un impact, je crois, de 2 degrés.
2 degrés,
sur
absolument.
La température.
Très bonne idée.
De rénover.
Sur les toits d'immeubles, absolument.
Voilà. Mais ça coûte rien.
Oui.
Donc déjà, qu'on commence à mettre tous les trucs en ciment, en béton.
C'est une
moche,
peinture un peu spéciale qui réfléchit blanc, effectivement la chaleur et qui permet de conserver.
Voilà, et que les gens qui nous gouvernent s'appliquent déjà la rénovation énergétique au patrimoine public avant de demander aux particuliers qui n'ont souvent pas les moyens, dont c'est un investissement pour la retraite, qui payent leur remboursement, d'aller payer des fortunes absolument impossibles pour des effets mineurs.
C'est très clair. C'est toujours le moment, très rapidement, d'acheter, Olivier Principal.
Bien sûr.
La bonne affaire,
c'est toujours le moment d'acheter.
Où est-ce qu'on peut investir à Paris ou en périphérie? Vous n'avez pas un bon plan pour nous là?
Alors, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est la seule question que j'ai en ce moment. Il faut que je loge des gens. Et alors, bien évidemment, tous les professionnels de l'immobilier sont là pour répondre à votre question.
Non, mais on s'est dit, avec Thomas, là, on va profiter d'Olivier.
Je crois que si vous voulez chercher un bon plan, allez, je vais être sympa, vous allez aller sur Bien Ici, et puis vous allez trouver probablement le bien que vous cherchez.
Sympa et efficace. c'est pas mal. Je propose que nous concluions sur une petite rubrique que nous aimons beaucoup. Les amis, je vous propose, voilà, vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, de rêver un peu. On va vous proposer un très joli produit. Voilà, ça fait rêver, c'est tout de suite après ça.
Bien ici, bien chez vous. Ça fait rêver.
Sébastien, mon cher Sébastien, vous savez que j'aime beaucoup Juno. Franchement, j'aime beaucoup. Moi, ce que j'aimerais, c'est aller passer une journée avec vous, si vous êtes d'accord. Promis, j'aurai une caméra. On demandera au propriétaire, si c'est possible, de prendre quelques images et de faire le tour.
C'est pas trop la politique de la maison.
Mais... voilà, des biens d'exception, parce que vous avez une chance, mais incroyable. Vous rentrez dans des lieux qui ne sont pas donnés à tout le monde, c'est vrai quand même. Là, vous allez nous présenter, on ne dira pas où, on a une photo, parce que pour des raisons de confidentialité qu'on peut comprendre, on va vous mettre une très jolie photo à l'écran, vous allez voir les amis. Voilà, là, on est dans le quartier de Saint-Germain, dans le 7e arrondissement.
Oui, alors c'est ça qui est formidable, c'est que
ça claque.
On a un peu l'impression d'être à la campagne, et en fait, on est dans le quartier Saint-Germain, on a le musée d'Orsay juste à côté, les quais de Seine juste là, et on a 300 mètres carrés de jardin, un appartement dans un hôtel particulier qui fait 850 mètres carrés.
Habitable. 850 mètres carrés habitable.
Qui est présenté au prix de 38 millions d'euros.
Bien.
Et qui est absolument exceptionnel parce que vous êtes...
Je vais demander à Madame Lévy, justement, de l'autre côté de l'écran, de lui dire, on va déménager.
On parle d'immobilier de luxe, on est dans l'archétype de ce que on achète quand on achète de l'immobilier de luxe à Paris.
38
pour les Français et pour les étrangers.
Qui achète à 38 millions d'euros, Sébastien? Des fortunes qataries, des Russes,
alors,
des Chinois?
Si on parle des étrangers, c'est principalement des Américains, un peu des gens d'Asie maintenant de plus en plus, et un peu du Moyen-Orient. Mais il y a aussi des Français fortunés.
Qui achètent des biens à 38 millions d'euros.
Qui achètent des biens, oui.
Mais ce bien qu'on a vu, il est exceptionnel. Parce que quand on entre à l'intérieur, on a l'impression qu'on est à la campagne. Et on est au cœur de Saint-Germain.
Oui. Ben c'est ça. C'est on... Et alors, ce que les gens achètent...
Et on peut se garer, en plus.
Alors, on a deux parkings. Non, mais c'est... Vous rigolez, mais c'est important parce que les gens qui achètent ça veulent une confidentialité un peu... C'est clé, la sécurité. Et il y a deux parkings en sous-sol dans lesquels on rentre directement. Et mine de rien, c'est un vrai sujet de pouvoir rentrer avec sa voiture sans avoir à être à l'extérieur. De la même façon que vous avez une entrée séparée pour avoir un cuisinier qui vient préparer. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses assez,
c'est exceptionnel,
assez sympathiques.
L'idée, c'était de vous faire rêver, bien évidemment, et on vous souhaite à toutes et à tous, si jamais la chance vous sourit, d'y accéder. Mais c'est vous dire surtout, hein, Sébastien, que grâce aussi à ces grandes fortunes, on préserve le patrimoine aussi du bâti. Il y a des clés magnifiques, des lieux magnifiques qu'il faut aussi savoir préserver. Et donc, c'est bien que vous en soyez également dans l'art de vivre et dans la décoration, même dans le côté bucolique que représente l'immobilier, les garants de cette tradition française. Et ça, c'est la marque de Junot également. Merci à vous. Voilà, il est temps de nous quitter. Voilà, il est temps de nous quitter. C'est le moment de faire quelques remerciements. Je voudrais remercier vraiment de façon très présente, sous les applaudissements du public, Olivier Principal, président de la FNIM Paris-Île-de-France. Également, applaudissements pour Sébastien Cuperfis, président de Junot. Et bien sûr, de Thomas Barbier, le directeur régional Île-de-France, pour bien ici. Merci Thomas. C'était une première tous les deux. Voilà, l'essayer, c'est l'adopter. On va se revoir régulièrement sur le plateau pour cette cinquième étape du Tour de France de l'immobilier avec Bien Chez Vous, Bien Ici. Voilà, on va clôturer cette saison. Rassurez-vous, nous continuons notre Tour de France puisque avec nos amis de Bien Ici, on a décidé d'aller comme ça au contact dans tous les territoires. Donc on sera avec vous, bien évidemment, on a fait pas mal de villes. On vous dévoilera bien sûr le trajectoire de ce Tour de France. Je voudrais quand même faire quelques remerciements à Ludivine, à Zineb, à Philippe, à Régis, avec mon producteur préféré, Grégoire Daricot, bien sûr, à la technique, Alexandre Burkhardt, le réalisateur directeur artistique, avec Théo Benoît Hambourg, toutes nos équipes de Radio Imo, Karine, avec Coralie, toutes nos équipes. On a un petit clin d'œil pour notre Bérénice, notre rédactrice en chef, qui est en congé maternité, qui va revenir bientôt. On va la revoir, bien sûr, au RENT. Voilà, encore un grand, grand merci également aux équipes, toutes les équipes de Bien Ici, Bien Chez Vous, un portail de recherche immobilière décidément ancré dans les territoires pour réaliser les rêves des Français et de se loger au quotidien dignement, dans la joie, la bonne humeur, on va espérer. En tout cas, en ce moment, il vaut mieux être de bonne humeur et être positif. Voilà, prenez soin de vous. D'ici là, on se retrouve sur Radio Immo, bien sûr.
Bien Ici, Bien Chez Vous, une émission proposée par Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.